Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme et au chaud en ce samedi matin frileux. Dans Nous voilà bien, on prend soin de vous, de votre bien-être et de vos finances. Chaque semaine de 9h15 à 10h sur RTL, place au sommaire. Depuis 14 ans maintenant, EDF n'est plus seule sur le marché de l'électricité en France. Alors peut-on faire de vraies économies en changeant de fournisseur ? Armelle Lévy, journaliste au service Éco et Conso de RTL, éclaire notre lanterne. Symbole de pureté, de beauté, de sensualité, l'orchidée compte parmi les fleurs préférées des Français. Et on aimerait bien que ces fleurs perdurent. Alors comment réussir à la faire refleurir ? On relève le défi avec Pierre Nesman, paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique et rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale, diffusée sur M6. C'est la saison des raclettes, des tartiflettes et des fondues savoyardes. Mais le fromage est-il bon ou mauvais pour la santé ? Dites-nous oui, Solveig Darrigaud-Dartinet. Elle est diététicienne nutritionniste et on attend sa réponse avec impatience.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention.
Tu me fais de l'électricité. Voilà, c'est Joe Dassin en ce samedi matin sur RTL. Merci d'être avec nous. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Alors l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, est-ce qu'elle a vraiment changé les choses pour les Français ? Parce que j'ai presque l'impression qu'on apprend quelque chose à ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, hein, pas trop, ça n'a pas changé grand-chose. L'ouverture du marché de l'électricité date de 2007 pour les particuliers. Ouais. Et malgré tout, aujourd'hui, 7 Français sur 10 sont encore au tarif réglementé d'EDF. Donc pour une majorité, ça n'a rien changé. Maintenant, vous avez le choix. Comme 10 millions de foyers aujourd'hui, si vous voulez changer, vous le pouvez, il n'y a plus le monopole. Mais bon, ce n'est pas comme dans la téléphonie où Free avait révolutionné le marché avec une innovation, sa box 3 en 1, téléphone, internet et télé, deux fois moins cher que les autres, et tout le monde avait suivi. Là, l'ouverture à la concurrence permet de réaliser, allez, entre 5 et 10% d'économies sur votre facture. Aujourd'hui, un foyer chauffé à l'électricité paye en moyenne 1 500 € par an. Donc, en changeant de fournisseur, cela fait 150 € de moins sur l'année. Mais quand même, cela oblige les fournisseurs à se différencier en proposant des offres plus attractives et plus innovantes. Vous trouvez des offres 100% en ligne, donc moins chères. Cela permet aussi de faire des achats groupés d'électricité. Tous les 2 ou 3 ans, des associations font jouer la concurrence. Elles négocient les prix en fonction du nombre d'inscrits, comme UFC Que Choisir ou Famille de France. Donc clairement, il y a quand même moyen de payer un peu moins cher.
Mais alors, hormis EDF, puisqu'on ne le sait pas réellement, combien y a-t-il de fournisseurs d'électricité en France ?
On compte 34 fournisseurs nationaux pour les offres d'électricité aux particuliers, c'est beaucoup. Mais il faut comprendre que les fournisseurs alternatifs, ils ne produisent quasiment rien. C'est EDF qui produit et commercialise son électricité nucléaire. Jusqu'en 2024, en tout cas, on a dit « il faut laisser les petits grandir ». Donc EDF est obligé de revendre moins cher son électricité aux petits fournisseurs qui lui font concurrence. Donc en réalité, les fournisseurs alternatifs ne cherchent pas à produire, ils disposent d'une force commerciale et leur grand truc, c'est de se constituer un gros portefeuille de clients en proposant des tarifs un peu moins chers, pour ensuite se faire racheter par des gros et là gagner de l'argent. C'est ainsi que Poweo s'est fait racheter par Direct Energy, qui lui-même a été racheté par Total, Total qui a aussi racheté l'Empiris.
Oui, mais alors comment voulez-vous qu'on se retrouve en s'y perd, hein ? Comment est-ce qu'on peut comparer toutes ces offres ?
Alors le mieux, c'est de consulter des comparateurs indépendants, neutres, parce qu'il y a des comparateurs qui vont vous conseiller un fournisseur auquel ils sont liés, c'est leur partenaire, donc ce n'est pas très objectif. Je vous conseille d'abord le seul site officiel, celui du médiateur de l'énergie. Notez bien l'adresse, www.comparateur.energie-info.fr. Je répète, comparateur.energie-info.fr. C'est facile, il vous suffit d'indiquer la puissance de votre compteur et votre consommation indiquée sur votre facture actuelle pour trouver toutes les offres moins chères. Mais il ne compare pas les services. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre comparateur intéressant. C'est celui de l'association UFC Que Choisir, qui compare le prix, mais aussi la qualité du service et les conditions générales. Pour bien choisir, il faut une offre qui vous corresponde. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, ce n'est pas la peine d'aller prendre une offre 100% en ligne parce qu'il n'y a pas de service client téléphonique. Ou encore pour les conditions de paiement. Il y en a qui vont vous demander de payer uniquement par virement automatique tous les mois. D'autres qui vont vous facturer des frais importants si vous payez en retard. Ou si vous payez par chèque, qui vont vous demander un dépôt de garantie. Donc au-delà du prix, vous devez comparer le service qui vous convient le mieux.
Oui, donc ça reste quand même compliqué. Quels sont les avantages et les inconvénients finalement à changer de fournisseur d'électricité, Armelle Lévy ?
Avantages, alors clairement. Des économies en quittant le tarif réglementé, on va dire entre 5 et 10% en moyenne.
C'est pas mal.
Et c'est très facile de changer de fournisseur. Si vous le faites en ligne, c'est immédiat. Ou par téléphone, le contrat vous est envoyé par courrier, cela prend quelques jours. Il vous suffit juste de donner votre identifiant de compteur au nouveau fournisseur et de faire un relevé de compteur. Je précise, contrairement aux idées reçues, vous n'aurez pas de coupure, parce que pour tout ce qui est approvisionnement, ce n'est pas le fournisseur, mais le distributeur Enedis, c'est le même pour tous, qui achemine l'électricité chez vous. Donc quel que soit le fournisseur, la qualité sera toujours au rendez-vous. Et vous pouvez toujours changer d'avis. Si une offre s'avère moins attractive, vous pouvez toujours revenir en arrière, choisir une autre offre, y compris le tarif réglementé, quand vous voulez et gratuitement. Le principal inconvénient, c'est le démarchage agressif de la part de certains fournisseurs.
Et ça, on le vit et on a régulièrement effectivement des appels dans ce sens. Est-ce qu'il faut se méfier de certains abus ou de mauvaises pratiques, comme dans tout domaine finalement qu'on ne maîtrise pas?
Oui, oui.
On sait qu'il y a des petits filous qui peuvent se glisser là-dedans.
Alors, chaque année, le magazine 60 millions de consommateurs décerne ses cactus aux entreprises qui n'ont pas assuré. Le cactus des abus de l'année 2020 revient à Eni. Le fournisseur italien enregistre 3 fois plus de plaintes que ses concurrents, trop de factures inexactes, des trop perçus non remboursés à temps, des prélèvements indus et du démarchage abusif qui lui a valu 315 000 euros d'amende par la répression des fraudes. Eni n'est pas le seul, Engie aussi s'est vu infliger une amende pour démarchage agressif. Un exemple, à domicile, un commercial sonne chez vous et vous dit « voilà l'offre, signez-moi juste le bon de passage », mais ce n'était pas un bon de passage, c'est un contrat, et vous basculez sans le vouloir à la concurrence.
Les escrocs.
Eh oui, par téléphone cette fois. Alors là, il faut faire attention, quand un fournisseur vous appelle, il vous demande combien vous payez par mois. Vous répondez 100 euros par mois. Le démarcheur va vous dire « c'est super, j'ai une offre, vous n'allez payer que 80 euros par mois, 20% de moins ». Donc, il vous fait payer effectivement 80 euros par mois pendant un an. Et l'année suivante, il vous envoie une grosse facture de régularisation. Le prix des mensualités ne correspondait pas au prix de l'offre. Donc, regardez toujours le prix de l'offre avant de signer, le prix de l'abonnement et du kilowattheure toute taxe.
Et ça en fait quand même du boulot pour changer d'opérateur. Mais ça peut valoir le coup. Dans un instant, on va se retrouver, Armelle Lévy, parce que beaucoup parlent des offres verte, l'électricité verte, vous nous direz de quoi il s'agit. Et puis on parlera évidemment des tarifs réglementés pour l'électricité, contrairement au gaz qui va bientôt disparaître. Vous allez nous éclaircir aussi là-dessus, parce que ça reste effectivement un véritable enjeu financier pour les foyers. Et puis on parlera fromage. Je sais que vous aimez le fromage, Armelle Lévy.
Ah, j'adore. N'est-ce
pas ?
J'adore, mais franchement.
Et orchidées, côté beauté. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous sentez comme ça cette petite odeur de raclette, de tartiflette, de fondue? On va parler du fromage parce qu'on s'en donne quand même à cœur joie en ce moment, c'est de saison, mais est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? On parlera des orchidées parce que j'imagine que vous aimez comme beaucoup, beaucoup de Français les orchidées. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que c'est pas forcément facile à entretenir, et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles puissent refleurir? Mais pour l'heure, on met le gaz et l'électricité à tous les étages avec Armelle Lévy. Alors, Armelle Lévy, vous venez de nous permettre de faire un petit point aussi sur les différents fournisseurs donc d'électricité. Ça n'est pas simple, on s'en rend compte grâce à vous. Il faut quand même éviter les pièges, et il y a 34 solutions, je dirais, alternatives aujourd'hui à EDF. Depuis 2007, ça fait un bout de temps, donc il était temps qu'on en parle sur cette antenne. On voit que les fournisseurs multiplient aussi les offres vertes. C'est quoi l'électricité verte, Armelle Lévy ?
Excellente question, Flavie, parce
Merci.
Que derrière ce nom, il y a des offres totalement différentes. Il y a l'électricité vraiment verte, c'est-à-dire que les capacités de production sont des sites renouvelables, éolien, solaire, hydraulique. Et donc là, le fournisseur s'engage à ce que sa production soit vraiment renouvelable. Après, il y a, disons, le vert clair. Pour le coup, la production peut être au charbon, au nucléaire ou tout ce que vous voulez, mais le fournisseur va acheter ce qu'on appelle des garanties d'origine en fonction de votre consommation. Cela veut simplement dire que Le fournisseur s'engage à réinvestir, à réinjecter dans le réseau, même pas le réseau français, le réseau européen, de l'énergie renouvelable. Donc, on vous fait croire que c'est du 100% vert, mais pas du tout. Donc l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, veut créer cette année un label pour essayer de distinguer le bon grain de l'ivraie. Mais je précise que dans tous les cas, l'électricité verte coûte toujours plus cher.
Voilà, c'est un effort financier à faire, mais également un effort quand on peut le faire, en tout cas pour la planète. Donc, on a bien compris qu'il y a toujours un tarif réglementé pour l'électricité, c'est ce que vous nous dites depuis le début. Contrairement au gaz qui va bientôt disparaître, qu'est-ce qui va se passer alors ?
En 2023, il n'y aura plus de tarif réglementé pour le gaz. Mais le tarif réglementé de l'électricité demeure. C'est un prix de référence fixé par les pouvoirs publics sur proposition d'une commission indépendante pour refléter les coûts d'EDF et du réseau de distribution. Mais il ne cesse de croître. Le tarif réglementé de l'électricité a pris 50% en 10 ans et il va encore augmenter cette année. Donc c'est pour ça, la fin du monopole sur ce marché de l'électricité n'a pas fait baisser les prix.
Bon, alors justement, c'est quoi la différence entre les prix fixes et les prix indexés pour les offres d'électricité ?
Sur le marché libre, il y a deux types d'offres. L'offre à tarif fixe, qui signifie que le tarif de cette offre ne changera pas si le tarif réglementé change, et les offres indexées, qui sont indexées sur le tarif réglementé. Donc si le tarif réglementé prend 6%, eh bien votre tarif prendra 6%. Donc le conseil, c'est plutôt de vous orienter vers des offres à prix fixe, puisque la tendance, elle est haussière sur ce marché de l'électricité. Là où il faut faire attention. Pour toutes les offres, c'est trompeur dans l'affichage. Quand vous voyez une offre présentée 15% moins chère, en fait c'est 15% moins cher sur le prix du kilowattheure, donc sur votre consommation. Pas sur le prix de l'abonnement, ni sur les taxes. Donc en réalité, c'est plutôt 6 à 8% de réduction. Cela reste toujours moins cher, mais jamais autant qu'affiché. Okay. Et enfin, une dernière chose à laquelle il faut faire attention aussi, Flavie, il existe des prix indexés, mais pas sur les tarifs réglementés, sur les offres de marché. Et là, ce sont des offres beaucoup plus risquées uniquement pour les consommateurs avertis. Ça bouge tout le temps. Donc si vous avez souscrit cette offre-là cet été, c'était une bonne affaire. Mais comme les prix des marchés augmentent en hiver, ça peut valoir la peine de changer.
Non mais attends, justement, ce sont des abonnements avec engagement ou sans engagement ?
Dans le domaine de l'énergie, il n'y a jamais de période d'engagement. Même quand on vous parle d'une offre à prix fixe 2 ou 3 ans, c'est le fournisseur qui s'engage à maintenir ses prix sur 2 ou 3 ans.
Okay.
Mais le consommateur, lui, reste libre de changer à tout moment.
Mais alors justement, quelle démarche dois-je faire si je veux changer d'opérateur ?
Franchement, rien de plus simple. On s'adresse au fournisseur que l'on souhaite avoir et c'est lui qui s'occupe des démarches de résiliation. Mais surtout, surtout, ne jamais résilier soi-même parce que le changement de fournisseur est gratuit, sauf si vous faites la démarche de résilier vous-même. Là, il peut y avoir des frais. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser faire le nouveau fournisseur sans jamais vous en occuper.
Le fournisseur, est-ce qu'il peut augmenter ses prix durant le contrat ? C'est-à-dire que j'ai l'impression de faire une bonne affaire au moment où je signe, mais après ?
Non, en principe, un tarif fixe engage les fournisseurs. Mais tous les contrats peuvent quand même augmenter en cas d'évolution des taxes et des règlements. Il y a quand même des offres à prix fixe qui sont vraiment fixes et d'autres qui disent que si le coût d'acheminement de l'électricité augmente, eh bien le tarif augmentera aussi. Donc lisez toujours bien les petites lignes du contrat avant de signer.
Alors les grandes galères, ce sont les pannes. Donc en cas d'urgence, est-ce que tous les fournisseurs se valent ?
Oui, parce qu'en cas de panne ou en cas d'urgence, ce n'est pas le fournisseur qui gère, mais le distributeur Enedis, qui est le même pour tous les abonnés.
Merci beaucoup Armel Lévy de nous avoir éclairé de la sorte. Je pourrais vous offrir une orchidée pour vous remercier.
Ah,
vous
merci,
les orchidées,
c'est très joli. Oui.
Vous en avez, vous ?
Non, j'en ai pas.
Parce que ça n'est pas simple, figurez-vous, l'orchidée.
L'entretien.
Ça pose souvent question. C'est très beau, mais justement, Pierre Nesman va nous éclairer dans un instant. Vous restez à notre écoute, Armel Lévy. Merci beaucoup. Je vous laisse aller prendre votre petit-déj du samedi matin.
Merci.
Je vous embrasse.
Avec une tartine de fromage.
Ah, bah, ça y est, du maroilles.
Non, de la cocoyotte.
La cocoyotte. Allez, je vous embrasse. À bientôt, Armel Lévy. Merci pour votre enquête sur l'électricité. Pas beau ça, Christian Delagrange avec Comme une orchidée. On remercie Alexandra Polaczyk hein, qui est la productrice de cette émission et qui, lorsqu'elle la prépare, effectivement nous trouve toujours des chansons qu'il faut absolument enregistrer dans nos playlists. Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie, bonjour à
merci
tous.
Merci d'être avec nous.
Mais c'est avec grand plaisir et bonne année à tous.
À vous également Pierre Nesman,
merci.
Vous êtes paysagiste, vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Vigitale diffusée sur M6. Au moment où je vous parle, j'ai devant moi une très jolie orchidée. orchidée qui m'a été offerte, une orchidée bicolore. Je vous avoue que je trouve ça absolument magnifique, mais que ce sont des fleurs aussi qui me font peur, et on y reviendra dans un instant. Alors, c'est très étonnant d'ailleurs, les orchidées, parce que moi j'en ai vu effectivement sous les tropiques, j'ai eu cette chance de pouvoir les voir parfois même pousser sur des cocotiers. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça peut pousser partout, une orchidée.
Effectivement, et ça pousse surtout de manière aérienne. Ce sont pour la plupart des plantes épiphytes. Épiphytes, ça veut dire qu'elles vont s'accrocher aux branches des arbres, s'accrocher aux écorces pour se développer et vivre finalement sans substrat ou avec très très peu de substrat et vivre essentiellement en captant l'humidité de l'air ambiant.
C'est incroyable, hein, parce qu'effectivement, elles ne sont pas enracinées dans la terre. Elles s'accrochent finalement à un élément déjà vivant, quoi. Et c'est très beau, c'est plein de poésie, l'orchidée, vous le disiez. On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous expliquer justement laquelle choisir pour chez soi, laquelle choisir pour offrir. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait justement? Comment est-ce qu'on l'entretient, cette orchidée? Et est-ce qu'elle peut fleurir à nouveau? Ce sera dans un instant avec vous, Pierre Nesman, sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Il est l'heure de vous lever, de vous réveiller, de vous faire un petit café. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, on vous accompagne tous les samedis matins entre 9h15 et 10h sur RTL. Et c'est Nous voilà bien, et aujourd'hui, je vous offre une orchidée.
Pas d'orchidée pour ma concierge, elle a le rhume. Des foins.
Une orchidée sur les 28 000 espèces qui existent aujourd'hui et 50 000 variétés issues d'hybridation. Donc en fait, on est forcément un petit peu perdu parmi les orchidées. Pierre Nesman, vous êtes notre invité et c'est vous qui nous parlez si bien de cette fleur. Alors, on est un petit peu paumé parce qu'elle est parfois vendue dans de la terre, parfois dans des copeaux de bois.
C'est surtout des copeaux de bois, très rarement de la terre et du terreau. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans leur milieu naturel, elles vont vivre accrochées aux écorces des troncs ou éventuellement sur des branches. Et donc, il va falloir qu'elle retrouve ce type d'environnement dans les pots. Et donc, on va trouver de la mousse, des fibres, des morceaux d'écorce de bois, des copeaux de bois. Et c'est vraiment le substrat très spécifique qu'on va utiliser pour les orchidées. Il faut que ce soit très léger, très poreux et très aéré.
Alors moi, je suis toujours très touchée lorsque l'on m'offre une orchidée. Ça fait partie de mes fleurs préférées. Néanmoins, je suis parfois stressée. Est-ce que c'est difficile de prendre soin de ce genre de fleurs?
Non, je vais vous rassurer. Mais c'est vrai que c'est une plante tropicale qui est un peu particulière, qui est très belle et qui peut un peu effectivement impressionner. Donc on a souvent tendance à la pouponner, à trop la pouponner. Et lorsqu'on en fait trop, on veut faire trop bien, eh bien on en fait souvent trop. Et donc dans ce cas-là, moi je conseille souvent de l'oublier un petit peu. C'est ce que je fais pour mes orchidées. C'est-à-dire que je m'en occupe pas pendant quelques temps, puis tout d'un coup, elles se rappellent à notre bon souvenir, notamment en produisant des petites pousses qui vont fleurir.
Mais moi j'ai toujours peur qu'elle manque d'eau. Comment je procède pour l'arrosage?
Alors l'arrosage, c'est très simple. Il faut l'arroser pas trop souvent. Il y a deux manières de procéder. La première, c'est pulvériser le feuillage, parce que comme elles vivent effectivement dans des zones tropicales très chaudes et très humides, il faut pulvériser de l'eau sur le feuillage avec de l'eau tempérée, de l'eau non calcaire. Et ça, on va le faire une fois par jour ou tous les deux jours. Et puis ensuite, on peut faire un arrosage beaucoup plus important, beaucoup plus intégral. On va carrément arroser le substrat avec un petit arrosoir ou éventuellement même tremper l'ensemble du pot pendant 10 minutes dans une bassine, toujours en utilisant de l'eau tempérée et non calcaire. On va la laisser s'égoutter parce que là, ça permettra aux racines de se réhydrater, mais aussi aux copeaux de bois, aux petites mousses qui sont autour des racines, eh bien de se gorger d'eau et de diffuser cette eau progressivement ensuite vers les racines.
Et justement, cette immersion des racines dans l'eau, c'est tous les combien ?
Alors, on va le faire tous les 15 jours, 3 semaines, en fonction effectivement de la saison. Alors, il y a des petits signaux qui vont être indiqués par la plante. Lorsque la feuille commence à se ratatiner ou à se friter, ça indique que l'orchidée manque d'eau, donc il va falloir l'arroser. En revanche, si vous l'arrosez beaucoup, vous allez avoir les feuilles qui vont commencer à ramollir, à jaunir, à pourrir. Là, c'est vraiment le signe qu'il faut absolument arrêter les arrosages pendant plusieurs semaines pour laisser le substrat s'assainir.
Quand les feuilles, en fait, jaunissent, quelle que soit la plante, c'est qu'elle est trop arrosée?
Pas toujours. Il faut faire attention. Ah. Quand elles ramollissent, elles jaunissent, elles commencent à tomber, il faut regarder l'état du substrat, que ce soit du substrat pour orchidée ou un terreau pour plantes d'appartement traditionnelles. Il ne faut pas que le substrat soit complètement gorgé d'eau. Il faut le laisser respirer un petit peu, c'est-à-dire le laisser sécher entre deux apports d'eau.
Dites-moi, c'est normal que les racines sortent du pot?
Ah, complètement. Complètement, parce que ce sont des plantes qui vont vivre accrochées aux arbres. Elles vont donc développer des racines pour se fixer sur les écorces, mais aussi capter l'humidité de l'air. Et donc, c'est tout à fait normal que quand vous achetez une orchidée qui est dans son pot, elle ait tendance à vouloir sortir sortir du pot. Les pots sont souvent transparents, ce qui est intéressant, parce que ça permet de voir un petit peu comment fonctionnent et comment vont les racines. Mais c'est tout à fait normal que l'orchidée cherche à s'extraire du pot pour justement capter l'humidité ambiante de votre intérieur.
Vous nous parlez d'une plante tropicale, donc c'est-à-dire qu'il faut la mettre en pleine lumière et qu'il fasse toujours chaud.
Effectivement, en pleine lumière, pas de soleil direct en été. En revanche, en hiver, comme le soleil est un peu moins violent, vous pouvez la mettre devant une fenêtre au sud. On peut aussi placer son orchidée devant une fenêtre orientée au nord, en pleine lumière. Ça marche très très bien. Et puis au niveau température, il faut compter entre 18 et 22 degrés. Alors c'est vrai que c'est assez chaud. En été, ça va. En hiver, c'est un peu plus compliqué. Mais les orchidées, il faut savoir, s'accommodent de températures plus basses, entre 15 et 18 degrés. Ce qui fait que dans nos appartements, entre l'été et l'hiver, elles sont parfaitement heureuses.
Est-ce que je dois la rempoter, mon orchidée ?
Alors, pas tous les ans. Signal, il est très simple. C'est lorsque le poids des fleurs, le poids des feuilles, commence à déstabiliser votre orchidée. C'est l'indication qui vous signale qu'il faut la rempoter. Alors, pour cela, on va l'extraire du pot. On va changer, enlever, par exemple, les racines qui sont un peu sèches, un peu vieillissantes. On va changer le substrat, réutiliser des copeaux, de la mousse, les écorces, et bien rempoter l'orchidée. Pas besoin d'utiliser un pot plus grand, le même pot peut convenir après l'avoir nettoyé. Et puis vous rempotez votre orchidée, vous tassez bien pour qu'elle soit bien stable et elle va repartir pendant plusieurs années sans avoir besoin de la rempoter.
Et combien de temps dure la floraison ? Vous parliez de plusieurs mois tout à l'heure.
C'est la raison, c'est l'une des raisons de leur grand succès, c'est que ce sont des fleurs, quand vous les offrez, qui vont fleurir pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Moi, j'ai des orchidées qui fleurissent depuis 4 mois sans discontinuer. Donc, vous imaginez, quand vous offrez cette fleur, vous vous rappelez au bon souvenir de la personne. Alors ça, c'est très pratique pour l'orchidée, effectivement.
Mais moi, j'ai vu des gens qui jetaient l'orchidée une fois les fleurs tombées. Et j'étais tentée de le faire à une époque. Et puis un jour, on m'a dit, mais que nenni, mes grandes folles, il faut que tu les gardes et elles vont repousser. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups.
Effectivement, c'est dommage de les jeter. Il faut leur donner une chance. Alors, je vais vous donner 2-3 petites indications. Lorsque vous avez la tige florale qui est suffisamment épaisse, qui est encore verte, vous coupez les fleurs fanées juste en dessous de la dernière fleur. Et très souvent, sur ces tiges, vous avez des petits bourgeons latéraux qui vont se développer, qui vont donner de nouvelles ampes florales et qui vont fleurir à leur tour. En revanche, quand vous avez des tiges qui sont beaucoup plus frêles, beaucoup plus grêles, beaucoup plus faibles, il est fort probable qu'elles n'aient pas de petits bourgeons qui leur permettent de refleurir. Donc dans ce cas, vous allez couper la tige à la base de l'orchidée, mais en laissant quand même 4-5 cm, de manière à ce que des petits bourgeons qui sont dormants au niveau de la souche repoussent et vous donnent une nouvelle ampe florale. Et puis enfin, dernier cas de figure, lorsque la tige est complètement sèche, là il faut la couper carrément à la base de l'orchidée, mais il y a de fortes chances que des petits bourgeons repoussent et redonnent de nouvelles fleurs.
Et on m'a dit en fait aussi qu'il fallait que je la mette dans une pièce un peu sombre, en tout cas plus fraîche l'hiver, et que j'évite les arrosages, que je fasse un petit peu souffrir la plante, je dirais, et qu'elle reviendrait au printemps, c'est vrai ?
Effectivement, on vous a bien renseigné, Flavie, parce que quand on fait souffrir, entre guillemets, l'orchidée, on va l'inciter à fleurir. Elle se sent un petit peu en danger et automatiquement, elle va se mettre à fleurir, à produire des ampes florales qui vont fleurir à leur tour.
Donc, mais il faut quand même l'arroser un peu.
Il faut l'arroser un petit peu, mais comme je disais tout à l'heure, on peut l'oublier. C'est-à-dire qu'on peut la laisser pendant 15 jours, 3 semaines sans arrosage. Cette petite période de diète va l'inciter à fleurir. Et très souvent, vous allez découvrir des petits bourgeons qui vont pousser, qui vont donner des ampes florales à la base de votre orchidée. C'est vraiment, je vais vous rassurer, une plante assez facile à vivre.
Je vous appelle dans 6 mois, je vous donne des nouvelles de mes orchidées. Mais on se parlera d'ici là, évidemment, Pierre Nesman.
Avec plaisir.
Merci d'avoir accepté notre invitation en ce samedi matin, Pierre Nesman. Je rappelle évidemment l'émission Mission Végétale diffusée sur M6 et puis Rustica Pratique. Je vous embrasse, à très bientôt sur RTL, Pierre.
Au revoir Flavie, merci.
Quant à nous, on se retrouve tout de suite sur RTL pour parler fromage avec Solveig Darrigaud-Dartinet qui est diététicienne. Peut-être qu'on va se faire engueuler. A tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Alors, on apprend plein de choses, évidemment, comme tous les samedis matins. Soyez les bienvenus, c'est Nous voilà bien jusqu'à 10h sur cette antenne. On a appris qu'on pouvait changer de fournisseur d'électricité, mais il faut être un consommateur averti. C'était en début d'émission. On a appris aussi qu'on pouvait s'occuper de nos orchidées et qu'elles pouvaient fleurir pendant 4, 5, 6 mois peut-être, grâce au conseil de Pierre Nesman. Et tout de suite, on va apprendre plein de choses sur les bienfaits et les méfaits du fromage.
Coulommiers, époisses, bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mondor.
Oh là là, les fromages chantés par le poète Chavignol. François Morel. Chavignol. Bonjour Solveig Darrigaud-Dartinet.
Bonjour Flavie.
Alors si François Morel est un poète, c'est vrai que le fromage, c'est toute une poésie aussi. Je disais que c'était la saison du fromage. C'est vrai, non?
Mais en fait, chaque saison apporte ses fromages et ses recettes avec fromage. Donc c'est vrai qu'en ce moment, en hiver, on est plutôt sur les pâtes pressées cuites pour faire, par exemple, des mélanges avec les mentales, le beaufort, etc. pour faire des fondues savoyardes. On peut faire aussi de la raclette. On y est vraiment
On sait quoi faire.
Oui, on a de quoi faire. Mais c'est vrai qu'après, au printemps, on aura plus envie des fromages frais, des fromages avec un affinage court. Donc, c'est lié aussi à notre consommation et nos recettes de saison.
Mais justement, Solveig, fromage de chèvre, fromage de vache, fromage de brebis, ça change beaucoup de choses, en fait, sur le plan nutritionnel, non?
Disons que le lait de brebis, on l'oublie souvent, on ne le sait pas forcément. C'est deux fois plus gras que du lait de vache, donc ça peut donner des fromages beaucoup plus gras. Après, ce qui va changer beaucoup, c'est plus l'affinage. Donc en fait, là, c'est plus forcément lié au type de lait, mais plutôt à l'affinage. Okay. Donc en fait, plus le fromage va être affiné, c'est-à-dire sec, plus il va être effectivement riche, gras, etc. Et puis après, ce qui change beaucoup pour le lait de vache, eh ben, il a plus de caséine. Donc c'est une molécule qui est un petit peu moins digeste. Donc souvent, les gens vous disent « Ah, je digère mieux le fromage de chèvre ou le fromage de brebis. » Donc là, ce n'est pas lié au gras, c'est lié à la protéine, la caséine.
Et alors, vous parliez de lait, justement. C'est quoi la différence entre le lait cru et le pasteurisé?
Le lait pasteurisé, c'est un lait qui va être chauffé. Donc du coup, on va enlever les germes nocifs. Donc ça, c'est une bonne chose. Et notamment, on va conseiller les fromages au lait pasteurisé pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées ou les personnes âgées, parce que du coup, ça présente moins de risques. En revanche, le fromage au lait cru, il a plus de goût, il a plus de caractère et il est un peu plus riche en microbes, mais en bons microbes aussi pour nourrir notre flore intestinale. Donc c'est pas forcément négatif.
Voilà, d'accord, ok.
Celui qui est amateur de fromage, il aime le fromage qui a du goût. Donc oui, c'est vrai qu'un fromage au lait cru a plus de goût et il a aussi beaucoup plus d'intérêt nutritif, notamment pour nourrir notre microbiote, parce que justement, ces microbes positifs, si on peut dire, eh bien, ils vont venir doper notre flore intestinale beaucoup plus finalement qu'un yaourt dont on vend souvent les ferments.
Ah, d'accord, mais alors, et c'est quelle quantité par jour?
Nous, en tant que diététicien, on a plutôt tendance à recommander un morceau de fromage par jour, donc 30-40 grammes.
Ça dépend quel morceau, voilà, c'est ça.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, je mange pas beaucoup, je mange juste un petit morceau de chaque », mais c'est vrai qu'à la fin, ça fait le plateau complet. Puis essayer de varier, surtout diversifier, puisque comme on l'a vu, il y a plein de familles de fromages, donc chacun a ses atouts et son goût différent, donc faut essayer de diversifier.
Mais est-ce qu'il faut le supprimer si on veut faire attention à son poids, Solveig Darrigaud-Dartinet? Moi, je mange très très peu de fromage.
Non, si on l'apprécie et puis qu'on a du mal à s'en passer, je dirais qu'il n'y a aucune raison de l'éviter, hein, parce que il apporte aussi plein d'autres bénéfices. Hein. Il est riche en protéines, il est riche en calcium, donc on en a besoin pour notre ossature, les enfants aussi. Donc non, c'est pas une bonne chose. Et puis ce qu'il faut essayer de faire, c'est justement de l'intégrer dans une alimentation diversifiée. Par exemple, il est riche en sel, en sodium, donc ça peut être un inconvénient. Mais si on l'associe avec de la salade, tout de suite, le potassium vient un petit peu contrecarrer cet effet riche en sel. Et on a un bon combo, comme on dit maintenant, avec une diversité plus intéressante. Donc dans les repas, il faut essayer de l'intégrer le plus souvent avec des légumes. Pour les enfants, ça permet aussi, par exemple, de manger de la soupe. On met du fromage râpé, ils vont manger plus de soupe. Ça peut les attirer un peu plus. Donc il faut trouver les petites combinaisons comme ça qui sont positives.
Mais c'est vrai qu'il donne du cholestérol?
Non, en fait, il est riche en graisse saturée. Donc c'est vrai que le type de graisse n'est pas bénéfique pour toutes les maladies cardiovasculaires. Donc c'est vrai que c'est pas un aliment comme la charcuterie, comme les viandes grasses à consommer à gogo. Hein. Donc voilà, faut être vigilant aussi sur les quantités, essayer d'alterner entre les fromages justement frais et les fromages plus secs qui sont plus gras mais qui sont également plus riches en calcium. Donc il y a toujours du positif et du négatif en parallèle.
Qu'est-ce que vous pensez du fromage allégé? Je pense à ceux qui nous écoutent et qui justement se penchent sur le fromage allégé pour éviter justement tous les inconvénients.
Je dirais bof. Bon, parce que si on aime le bon fromage et qu'on est obligé de manger 3 morceaux ou 4 morceaux de fromage allégé pour se dire ouais, c'est un petit peu le goût de fromage, vaut mieux un bon qui soit du pur et dur fromage. Maintenant, j'avoue qu'il y a une petite clientèle, c'est pas ce qui se vend le plus, mais il y a une petite clientèle pour le fromage allégé, donc pourquoi pas, ou les fromages à pâte fondue qui restent des fromages pas forcément très très gras non plus, donc et s'orienter plutôt vers des fromages frais à ce moment-là, chèvre frais, cancoyote, des choses comme ça.
La fameuse cancoyote d'Armel Lévy, hein, elle se fait sa tartine de cancoyote le matin, nous a-t-elle confié tout à l'heure. Dernière question, ça se conserve combien de temps un fromage? Parce que c'est vrai qu'est-ce qu'il faut attendre que ça pue, que ce soit tout rabougri dans un coin
qu'il soit tout moisi. Quand c'est un fromage frais, on va le conserver quelques jours jusqu'à une semaine à peu près. Okay. Mais plus on est vers des pâtes pressées cuites, donc Emmental, Comté, Beaufort, etc., plus le temps de conservation va être long. Donc c'est plusieurs mois, voire on en achète d'ailleurs avec des affinages 12 mois, 24 mois. Nous, en tout cas, à la maison, on peut le conserver facilement 5-6 mois, hein, sans problème.
Toujours au réfrigérateur ?
Bien emballé. Alors on peut le congeler, mais à ce moment-là, il faut congeler des petits morceaux parce que à la décongélation, suivant ce qu'on va faire pour... bon, si on le cuit et qu'on le met dans un gratin, c'est pas grave. Mais si on veut le manger tel quel, c'est un peu plus délicat. Donc, il vaut mieux congeler des petits morceaux, moins de 500 grammes.
Mais sinon, on le met au réfrigérateur, on le laisse pas.
Sinon, oui, au frais, dans une boîte à fromage, si possible, qui a en général une petite, voilà, une petite possibilité d'évacuation de l'eau pour pas qu'il y ait de l'eau dans la boîte, en fait.
Très bien, ok. Bon, bah, c'est super. Vous parliez de congeler, mais nous, on congèle pas nos bisous. Vous savez, ici, on n'a plus vraiment le droit de s'embrasser en ce moment. Mais néanmoins, on peut se le faire à la radio. Donc, je voudrais vous remercier, Solveig Darrigaud d'Artigny. Je ne sais pas pourquoi, mais vous m'avez donné envie de faire une raclette avec le temps qu'il fait ce week-end.
Oui, je crois. C'est pour ça. Avec la salade.
On a le droit, madame la diététicienne. Si
avec la salade, il n'y a pas de souci, on ne l'oublie pas.
Merci beaucoup, en tout cas. Je cite votre site www.cuisine3s.fr et votre livre Goûter sain et naturel aux éditions Rustica. À bientôt, Solveig Darrigaud d'Artigny.
Merci, bon week-end.
Merci à vous. C'est déjà la fin de Nous Voilà Bien, c'est fou. Bah oui, le temps passe vite en votre compagnie ce samedi matin. Retrouvez-nous sur RTL.fr pour le replay de l'émission en podcast sur les plateformes dédiées. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, 9h15, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Restez prudents et masqués, je vous embrasse.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films, pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.